Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Rouge à la présentation.
Bonsoir. Bilan des opérations militaires conjointes menées de janvier 2009 à ce jour au nord et au sud Kivu par la MONUC et les FARDC. Dans un communiqué publié ce mardi par un collectif d'ONG national et international dont Human Rights Watch et Oxfam, plus de 1000 personnes civiles tuées, 7000 femmes et filles violées et près de 900 000 personnes déplacées. Sur quoi se sont basées ces ONG pour dresser ce bilan et quelles sont les recommandations formulées par ces ONG pour améliorer la protection des populations civiles dans l'opération Kimia 2 dans les deux Kivu? Nous accueillons quatre invités dans cette émission. Aubin Minakou, député national PPRD et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable. Anneke Van Woudenberg, chercheuse à Human Rights Watch, chargée du programme RDC. Bonsoir, Anneke. Voilà, nous allons avoir Anneke dans quelques instants. Kevin Kennedy, directeur de l'information publique de la MONUC. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Alain.
Cyprien Biringingwa, président de la société civile du Sud Kivu. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Plus de 1000 civils tués, 7000 femmes et filles violées, près de 900 000 personnes déplacées. Tel est le bilan des opérations militaires menées au nord et au sud Kivu, conjointement par la MONUC et les FARDC de janvier 2009 à ce jour. Ces chiffres viennent d'être publiés ce mardi par une coalition d'ONG nationales et internationales qui interviennent en RDC. En réaction, le gouvernement parle d'une simple manipulation tendant à perpétuer la présence de ces ONG dans l'est du pays. José de Chartemenga pour les détails.
C'est dans un communiqué que ce collectif d'ONG, dont Human Rights Watch et Oxfam, dressent leur bilan. Pour ces ONG, l'opération Kimia 2 a entraîné un coût inacceptable pour la population civile. Outre les morts, les femmes violées et les personnes déplacées, Kimia 2 a également entraîné la destruction de plus de 6000 logements, notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Lubero et Walikale au nord Kivu, ainsi que dans ceux des Kabare, Kalehe, Walungu, Shabunda et Uvira au sud Kivu. Le Maniema et le nord Katanga sont également cités. Les ONG accusent les rebelles rwandais des FDLR de commettre délibérément ces crimes sur les civils. Les FARDC sont également cités d'avoir pris des civils pour cible en commettant plusieurs crimes. La coalition indique que le désarmement des FDLR doit rester une priorité impérative pour le gouvernement et la MONUC, mais qu'ils doivent agir de toute urgence pour améliorer la protection des civils.
J'en parlais déjà de la réaction du gouvernement central. Sachez que Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, ne rejette pas ce rapport. Mais il trouve tout à fait suspect le moment qui est choisi par cette coalition d'ONG pour le divulguer. S'agissant de la protection des civils, le ministre Mende affirme que les civils sont protégés parce que selon lui, les populations elles-mêmes multiplient des signes de contentement et de reconnaissance envers les forces armées. On écoute Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central au téléphone de Freddy Lufulabo.
Cela ne nous étonne pas. Depuis que le club de Paris a annoncé sa réunion pour arriver à finaliser le processus de l'accomplissement par notre pays du point d'achèvement et d'éligibilité à ces facilités au niveau de PPPE, c'est la deuxième initiative de cette fameuse coalition d'ONG, d'abord en direction du gouvernement français qui abrite le club de Paris, et maintenant toujours dans le même sens, essayer de décourager nos partenaires de la communauté internationale. Finalement, bon, c'est aux Congolais qui ont à comprendre le sens de l'engagement de certaines ONG, ce n'est sûrement pas pour accompagner les efforts de normalisation du peuple congolais et des institutions que le peuple s'est choisi.
Anneke Van Woudenberg, vous êtes chercheuse à Human Rights Watch, chargée du programme RDC. Sur quoi cette coalition d'ONG dont vous faites partie s'est basée pour dresser ce bilan qui est quand même très lourd?
Oui, bonsoir. C'est tout à fait vrai. Le bilan des opérations Kimia 2, c'est vrai que c'est assez lourd au niveau de aux questions des droits de l'homme et certainement aux questions humanitaires. Je voudrais juste répondre un tout petit peu à cette interview de le ministre de communication, parce qu'en fait, la coalition n'a pas publié cette information au cours de la réunion du Paris Club, ni pour décourager les partenaires du Congo. En fait, nous publions cette information pour assurer que les faits sont dans le domaine public par rapport à le taux vraiment qui était payé par les civils. En fait, plus d'un million de personnes qui étaient tuées. Et je pense que c'est très important maintenant que nous regardons quoi faire avec l'opération Kimia 2, qui a causé beaucoup de problèmes pour les civils. Tout à fait, c'est important que les opérations pour trouver une solution vis-à-vis les questions des FDLR, ça c'est très important. On doit continuer de mettre la pression, de trouver une solution par rapport aux questions des FDLR. Mais on doit être clair que le coût de ces opérations sont assez lourds et on doit regarder d'autres options pour mieux faire ça avec une protection des civils. Aujourd'hui, la protection des civils est assez faible.
Anneke, je vous ai posé une question précise. Quels sont les éléments dont vous disposez pour dresser ce rapport? Sur quoi vous vous êtes basé?
Alors, nous sommes basés sur plusieurs des statistiques des ONG de droits de l'homme, des ONG humanitaires et bien sûr aussi les statistiques de la Nations Unies, de la MONUC. Donc, on a pris toutes les statistiques qui sont déjà publiées, qui sont là dans les domaines publics et on a mis tout ça ensemble pour mieux comprendre les réussites de ces opérations, mais aussi le coût. Et comme vos journalistes ont déjà expliqué, le coût de ces opérations sont assez lourds et en fait sont simplement désastreuses pour la population.
Kevin Kennedy, vous êtes directeur de l'information publique de la MONUC. Ce bilan est très lourd. Hein. Comment réagit la MONUC?
Je crois que nous avons plus de points en commun avec les ONG que de différences de point de vue. Nous savons très bien que, enfin, le bilan humanitaire est très lourd. Et c'est une chose que la MONUC a portée à l'attention du Conseil de sécurité depuis le début de l'année, que toute opération pour mettre fin à la menace des FDLR sur le sol congolais allait impliquer des conséquences humanitaires. Et il n'en est pas question de s'attaquer à un groupe qui a opéré sur le sol congolais illégalement, un groupe étranger armé qui a presque pris contrôle de grandes parties du territoire congolais sans faire des dégâts. Alors, on a signalé ça depuis le début au Conseil de sécurité et à la communauté internationale. Quelle était notre tâche? Notre tâche, comme la MONUC, est une tâche à deux volets. Premier volet, c'est protéger les populations, protéger les civils. Alors, nous avons mis l'accent sur ce point dans tout ce que nous avons fait au cours de l'année. C'est pour mitiger les conséquences humanitaires des opérations. Deuxième volet de notre tâche, c'est soutenir les FRDC, soutenir les forces armées de l'État congolais, du gouvernement légitime du Congo, dans nos opérations contre ces groupes illégaux qui occupent le territoire.
Mais en parlant de soutien au FRDC, dans ce rapport, le collectif des ONG accuse les Nations Unies de ne pas avoir usé de leur influence pour inciter le gouvernement à empêcher les commandants connus pour leur passé d'atteinte aux droits humains de participer à ces opérations.
Oui, alors c'est un des points où nous ne sommes pas d'accord avec les ONG. Je crois que en lisant ce communiqué, on voit que les ONG veulent que nous fassions plus et que nous fassions mieux. Alors, en effet, nous voulons toujours faire mieux et faire plus. Mais quand il s'agit d'apporter à l'attention du commandement des FRDC aux autorités congolaises le mauvais comportement de certaines unités de l'FRDC, de mettre de la pression même sur le gouvernement et les autorités militaires, de mettre fin aux exactions et aux abus commis par certains membres des FRDC. Alors, c'est une chose qu'on fait régulièrement. La MONUC suit les opérations de près et nous apportons à l'attention des autorités militaires les noms des commandants et les unités qui se comportent mal. Alors, est-ce que ça a eu tous les faits qu'on aurait voulu, bon, je ne sais pas, c'est aux autres à décider. Et pourtant, tout ce que nous faisons du côté du soutien aux FRDC, c'est pour appuyer la politique de tolérance zéro qui a été annoncée par le chef de l'État.
Robin Marcou, vous êtes député national PPRD et vice-président du groupe parlementaire de ce même parti politique à l'Assemblée nationale. Comment vous accueillez ce rapport?
Bon, je dirais que si, et j'insiste sur le si, si réellement il y a eu 1000 civils tués, si réellement il y a eu 7000 femmes violées, je compte aussi les nombreux déplacés, on m'a parlé de 900 000, c'est une situation grave et les perpétreurs de ces crimes internationaux doivent être punis, c'est clair. Et les perpétreurs de ces crimes internationaux, de façon objective, c'est d'abord les rebelles rwandais. Les rebelles rwandais qui sont arrivés au Congo depuis 1994 à la faveur d'une pression des Nations Unies. On évoque le cas des FARDC qui ont commis des crimes, des viols et tout ça. Les FARDC, perpétreurs des crimes internationaux, doivent être punis et sont réellement punis par les cours opérationnels. Il y a des preuves à cet effet. Donc, et le gouvernement, et moi en tant que député PPRD, nous ne pouvons que nous indigner face à ces massacres, face à ces tueries, parce qu'il s'agit de Congolais. Mais le problème, c'est de savoir quelle est la position réelle de la population congolaise dans son intime conviction. Cette population congolaise de l'Est qui porte les affres, les stigmates de la guerre, des violations massives des droits de l'homme depuis des dizaines d'années. Cette population n'accepte pas la présence des troupes d'agression. Nous avons clos cette affaire des troupes d'agression. Même la Cour internationale de justice a eu à se prononcer à ce sujet. Cette population n'accepte pas la présence des Interahamwes. C'est clair. Et le gouvernement et la population. Le gouvernement, agissant dans le cadre d'une crise structurelle, d'une crise qui date d'une dizaine d'années, une armée en pleine refondation, nous nous battons pour mettre hors d'état de nuire les Interahamwes. Donc le gouvernement ne peut que être encouragé, d'autant plus que la guerre, que ce soit les Américains en Irak, toutes les guerres du monde, il y a toujours des dégâts sur la population civile. C'est condamnable. Nous le condamnons parce qu'il s'agit de nos compatriotes, mais arriver à dire que certaines portions de l'Est du Congo, occupées par les Interahamwes, vivaient dans la paix, la population vivait paisiblement, là, ce n'est pas honnête. C'est se moquer de cette population même qui veut vivre en toute souveraineté, qui veut exercer son autodétermination sans présence des Interahamwes. Et poser la question à chaque maraîchère, à chaque citoyen de l'Est du pays qui a perdu des frères, des sœurs, des enfants, poser la question, est-ce qu'il est bon de mettre hors d'état de nuire les Interahamwes? Tout le monde vous dira oui.
Anneke, vous venez de suivre Kevin Kennedy et Aubin Minaku. Comment vous réagissez à leurs propos?
Bon, si je peux prendre la dernière point premièrement, certainement je suis tout à fait d'accord avec Honorable que c'est important que la pression continue pour mettre fin à ce problème des FDLR. Je suis tout à fait d'accord avec toutes les personnes à qui j'avais parlé depuis plusieurs de mois et des semaines de recherche. La population a vraiment été très fatiguée du présence des FDLR et c'est important que nous cherchions une solution par rapport à ce problème. La question qui est très importante, c'est que est-ce que seulement une approche militaire trouvera une solution des FDLR? Et une chose que la collective des ONG avait suggéré, c'est qu'on a besoin d'une approche plus globale, multifacette avec plusieurs de pistes, bien sûr avec une pression militaire, pas nécessairement des opérations, mais une pression militaire qui continue par rapport à les leaderships FDLR, mais aussi pour renforcer les programmes de désarmement, pour renforcer le suivi judiciaire contre les leaders des FDLR qui n'habitent pas au Congo, mais qui habitent à l'extérieur. Et certainement aussi une pression pour augmenter la protection des civils. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, la MONUC donne plus de 6 millions de dollars du support aux gens de FARDC. Rations, carburant, autres assistants logistiques. Je pense que ça vient aussi avec une responsabilité. Quand la MONUC donne ce type d'argent, c'est important que la MONUC demande aussi d'écarter les commandants des bataillons, les commandants de FARDC qui sont responsables pour les viols, pour des pillages et pour d'autres violations de droits de l'homme. Le MONUC est là, bien sûr, pour assister l'armée congolaise, mais pas pour les assister de continuer de commettre des violations de droits de l'homme. On avait bien sûr suivi cette politique de tolérance zéro, qui est une politique très importante. Mais nous tous, nous ne voulons pas des jolis mots, nous voulons des actions. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours le général Bosco Ntaganda qui joue un rôle très important dans des opérations à l'est du Congo, recherchées par le Cour international, bien connu pour des violations de droits de l'homme assez graves. Dernièrement, l'année passée au Kiwanja, lui reste toujours là. Pourquoi il n'est pas arrêté? On a le général Jérôme Kakwa, je vais juste terminer avec ça. Une autre qui était dans la liste des personnes données par le Conseil de sécurité des Nations Unies au président Kabila, jusqu'à aujourd'hui, le type n'est pas arrêté. Donc, si nous voulons vraiment une meilleure protection des civils, on a besoin d'action contre ces types de commandants.
Voilà, il y a deux auditeurs de provinces différentes qui vous posent les questions suivantes. D'abord, Albert Izombo de Kindu Maniema. Pourquoi ces ONG, c'est-à-dire vous, ne jugent que négativement tous les efforts du gouvernement? Est-ce qu'elles ignorent que les opérations militaires ont toujours des conséquences collatérales? Et ensuite, il y a Francis Visso de Goma en Nord-Kivu qui dit « Il est vrai qu'il faut mettre fin à la menace FDLR, mais n'oublions pas que toute opération militaire a toujours des effets sur la population. »
Alors, si je peux répondre à ça, je pense aussi que toute opération militaire doit aussi respecter les conventions de Genève et doit aussi respecter le droit international. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on peut accepter ce type de dégâts pour la population. Je pense qu'on doit prendre toutes les étapes nécessaires, le MONUC doit prendre toutes les étapes nécessaires pour minimiser ce dégât pour la population civile.
Alors, Kevin Kennedy, si la MONUC va prendre toutes les mesures pour minimiser, c'est que quelque part, la MONUC, d'après Anneke, n'a pas totalement joué son rôle.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que si on écoute bien ce qu'Anneke a dit, c'est qu'il y a des responsabilités qui incombent aux Nations Unies et à la MONUC, il y a des responsabilités qui incombent également au gouvernement. Et nous travaillons avec un gouvernement qui a une responsabilité envers son peuple. Alors, ce que nous portons en appui à ce gouvernement vient bien sûr avec certaines obligations. La MONUC a clairement indiqué aux autorités congolaises que nous portons notre appui, mais ce n'est pas un chèque en blanc, que quand il y a des unités qui se comportent mal, que notre soutien pourrait être mis en question. Mais ce n'est pas seulement une question de sanctionner, mais c'est plutôt de soutenir les efforts à mettre de la discipline dans les FRDC et d'aider au gouvernement de mettre en œuvre cette politique de tolérance zéro dont nous avons parlé. Alors, je crois de mettre le doigt sur la MONUC comme l'acteur principal, je comprends pourquoi les ONG voient en la MONUC un rôle particulier, parce que c'est nous qui faisons peut-être le plus sur le terrain et qui disposons des moyens à protéger les populations et nous faisons de notre mieux. Mais il y a quand même des responsabilités du côté du gouvernement pour mettre en œuvre, en fait, toutes ces normes internationales que Kanik avait invoquées.
Mais ça fait quand même un bon moment que les ONG reviennent encore sur le camp Ntaganda, ainsi que d'autres généraux, mais la MONUC en tant que partenaire des FRDC. qu'est-ce qu'elle fait dans ce sens?
Dans ce sens, on a créé un réseau et des mécanismes pour trouver des renseignements sur le terrain. Nous connaissons ces ONG très bien. On travaille toujours avec eux. Plusieurs parmi les ONG qui ont signé ce communiqué font partie de ce qu'on appelle le cluster, le protection cluster, là où on partage des informations et on essaie de voir où sont les populations les plus vulnérables, où sont les endroits où il faut que la MONUC concentre ses troupes et concentre ses efforts. On ramasse les informations et sur les activités des FDLR, qui font des représailles contre la population et également sur le comportement des différentes unités des FRDC. Ces informations sont recueillies par une cellule au niveau de la direction de la MONUC et selon l'analyse de cette information, on apporte au gouvernement, aux autorités militaires, des informations et avec des recommandations que certains commandants devraient être retiré de leurs fonctions, ou bien s'il doit y avoir des mesures pour combattre l'impunité dans certaines unités. Alors, on fait nos recommandations, mais nous ne sommes pas le pouvoir souverain au Congo. Il y a un pouvoir souverain, c'est le gouvernement.
Robin Narkou, il y a deux auditeurs hein, qui vous adressent aussi des questions. Il y a Richard Kagabwanga de Kikwit-Bandundu qui dit « Si ces ONG ont menti, que le gouvernement donne à la population congolaise le vrai bilan de ces affreux événements. » Omar Kavota de Beni au Nord Kivu, « Pourquoi le gouvernement congolais crie toujours à la manipulation lorsque l'autre son de cloche relate la réalité? Est-ce par ignorance de la situation ou par mauvaise foi ?»
Bon, je dirais, en droit, on dit « actor incumbit probatio », c'est celui qui accuse qui doit rapporter la preuve. C'est à ces ONG-là de démontrer que voilà, il y a eu 1000 morts, voici les noms, voici toutes les précisions, ce n'est pas au gouvernement. Mais j'aimerais voir la réponse que je donne rapidement à mon ami de ma province, le Bandundu Atikwit. Mais j'aimerais relever quelques points en rapport avec ce qu'a dit Madame Anneke, merci. Quand elle parle de l'approche militaire, il ne s'agit pas seulement de l'approche militaire actuellement. D'ailleurs, depuis 2003, avec le processus du dialogue intercongolais, le gouvernement 1 plus 4, les différents mandats de la MONUC, qu'il n'y a un, qu'il n'y a deux, l'approche est bien au-delà de du simple aspect militaire. Je crois que c'est clair, c'est patent. Il suffit de voir le processus comment ça évolue. Deuxièmement, lorsque elle parle de la tolérance zéro, c'est vrai que c'est un grand chantier, la tolérance zéro. Il y a encore beaucoup à faire dans tous les domaines, à Kinshasa, au Congo, et même en ce qui concerne l'opération Kimiadieu. Mais elle sort des phrases telles que « pas de jolis mots, il faut des actions ». Moi, je dirais « pas de jolis rapports ». Il faut plutôt s'imprégner de la réalité en toute responsabilité.
Donc, pour les dire,
voilà,
c'est des jolis rapports.
Rapport superficiel.
Oui, c'est plutôt des jolis rapports.
Qui ne racontent pas la réalité sur terrain.
Oui, et le contexte, la façon dont ce rapport est présenté, le contexte, laisse croire qu'il y a quelque part un objectif inavoué que seul Anneke connaît et son ONG. Je donne un exemple concernant Jean Bosco Taganda, puisqu'on en parle tant. S'il vous plaît, pour le Congo, il s'agit d'abord d'une question de souveraineté. Je connais un tout petit peu les statuts de la Cour pénale internationale. Si je ne m'abuse, il y a l'article 16, si je ne m'abuse, ça peut être un autre article, qui dit ceci. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est chargé de la paix et de la sécurité, comme tout le monde le sait, estime que pour des raisons de paix et de sécurité, une action judiciaire pendante devant la Cour pénale internationale peut déranger la paix et la sécurité internationale, le Conseil de sécurité peut demander la surséance de cette action. Donc la Cour pénale internationale est déjà saisie d'une affaire, le Conseil de sécurité, un organe politique, demande à la Cour pénale internationale de ne plus poser des actes dans cette affaire pendant une année et renouvelable jusqu'à l'infini. Quel est le motif, la raison d'être de cet article? C'est que, d'abord, c'est la paix et la sécurité internationale. Une seule action judiciaire concernant
un individu, un facteur, ne peut pas préjudicer la paix et la sécurité internationale. Si au niveau international, on a tenu à mettre en place cette disposition soupape de sécurité sur le plan interne, il faut comprendre la République démocratique du Congo. Encore que les crimes internationaux sont imprescriptibles. Une ONG superficielle va crier à tout moment, il faut arrêter Jean Bosco Ntaganda, il faut l'arrêter. Mais une structure responsable comprendra pourquoi l'on ne peut pas poser des actes n'importe comment. Même au niveau des relations internationales, c'est bien prescrit par le statut de la Cour pénale internationale. Donc, j'ai donné tout cet exemple pour démontrer qu'il y a parfois un peu une attitude superficielle. Mais concernant les FRDC, les soldats ou même les unités qui violentent le droit international humanitaire doivent être condamnés, doivent être punis. C'est ça la tolérance zéro. Et ça, je ne peux dire le contraire. Et je crois que c'est aussi le point de vue du gouvernement, du chef d'état-major général des forces armées, qui, à mon avis, mène beaucoup d'efforts dans le sens de la lutte contre l'impunité au sein des FRDC.
Anneke, vous venez de suivre le député national Aubin Minaku. Votre rapport n'est pas très réaliste. Et puis, par rapport à Bosco Ntaganda, le gouvernement congolais a privilégié la paix et la sécurité nationale.
Bon, si je peux répondre à cette question de Jean-Robert Bosco Ntaganda, en fait, l'honorable, tout à fait, la raison est à cet article 16, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas pris une décision, en fait, n'a pas appliqué l'article 16 par rapport à les dossiers de Bosco Ntaganda. Donc, le gouvernement congolais eux-mêmes a demandé à la Cour pénale internationale de lancer des études au Congo. C'est eux-mêmes qui ont écrit. Et en fait, maintenant, c'est la responsabilité de le gouvernement du Congo pour arrêter Bosco Ntaganda. Donc ça, c'est clair. Tout à fait, il y a toujours cette question de paix et justice. Pour nous, à Human Rights Watch, les deux choses marchent ensemble. Peut-être à un rythme un peu différent, mais c'est important qu'on ait la justice si nous voulons un paix durable. Et moi, je ne pense pas qu'on peut vraiment demander un paix durable, qu'on peut espérer pour un paix durable avec Général Bosco Ntaganda toujours dans des opérations militaires à l'est du Congo. C'est un général qui a une histoire assez sanglante et je pense qu'il y a seulement une direction pour le général Bosco Ntaganda et ça c'est à l'arrêt pour répondre à les choses qu'il a fait en Ituri et bien sûr aussi au Kivu. Mais en fait, pour cette question de joli rapport, on ne fait pas ce rapport pour faire plaisir. Les choses que nous voulons, c'est de mettre clairement les faits sur noir et blanc pour faire un débat, pour discuter est-ce que les réussites de cette opération sont est-ce que nous sommes d'accord avec cette réussite quand nous regardons le coût de ces opérations. Donc on n'a pas joué, on n'a pas envoyé ces statistiques sans une base réelle. Je peux dire pour toutes ces 1143 civils qui étaient tués, Human Rights Watch a bien documenté, on a les témoignages directs, on a les gens qui avaient enterré ces corps. La réalité, c'est que ces opérations avaient vraiment un coût désastreux pour la population civile. Maintenant, la question sera, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la protection des civils et au même moment pour assurer qu'on peut trouver une solution à ce problème des FDLR? Donc c'est ça un débat qui est très important. Je suis en fait à New York pour aussi discuter ça avec différentes personnes de la Nations Unies. Il n'y a pas de solution simple par rapport à ça. Mais on doit regarder la réalité, on doit regarder les faits, les statistiques que nous avons publiées aujourd'hui. Les grandes majorités ne sont pas des statistiques des ONG. En fait, les grandes majorités sont des statistiques de la Nations Unies eux-mêmes. Par exemple, les statistiques de plus de 7000 femmes et filles violées, ça vient de la Nations Unies. Et seule chose que nous avons fait aujourd'hui, c'est de le mettre noir sur blanc, une côté réussite, l'autre côté les coûts. Et en fait, on doit poser beaucoup de questions. Comment on peut améliorer la situation pour la population à l'est du Congo?
Voilà, je crois que vous avez déjà lancé le ton. Que faut-il, à votre avis, concrètement? Vous avez fait une série de recommandations dans ce rapport. Que faut-il concrètement pour améliorer, d'après vous, la protection des populations dans ces opérations militaires?
Bon, première chose que j'avais déjà dit, c'est d'insister sur une approche plus globale, multifacette, pour essayer de traiter la question des FDLR. Donc, pression peut-être militaire, une pression militaire, mais avec plusieurs d'autres pistes aussi, comme une amélioration de le programme de désarmement et ensuite. Mais je pense aussi que c'est très important que le MONUC, maintenant, la Nations Unies, la communauté internationale, dit au gouvernement congolais, si vous voulez toujours notre support, si vous voulez toujours les 6 millions de dollars de carburant, des rations militaires et des autres choses que nous vous donnez, c'est important que vos troupes vraiment peuvent respecter la loi internationale. Et maintenant, pour traduire en justice, les commandants qui ne veulent pas arrêter les meurtres, les viols, les pillages, etc. Le moment est venu pour vraiment améliorer ça et pour prendre ce type d'étape pour mettre la pression sérieuse. Et bien sûr, à la fin du jour, c'est le gouvernement congolais qui doit prendre ses décisions. Mais je pense que nous tous ne voulons pas qu'il y ait encore des massacres, qu'il y ait encore des viols. Nous tous, nous voulons des solutions durables.
Kevin Kennedy, Anneker propose que les solutions soient diversifiées, qu'il n'est pas que la solution militaire. Elle propose par exemple l'amélioration du programme de désarmement, traduire en justice les criminels, mais elle s'adresse aussi à la MONUC.
Oui, je ne veux pas éviter de répondre aux questions à ces points, mais seulement pour rajouter quelque chose qui n'a pas été évoqué dans la conversation. Et c'est le fait qu'il faut du temps. Il faut reconnaître que les FDLR, c'est une force, c'est des combattants qui ont opéré dans ce pays depuis plus d'une décennie. Il n'y a eu que 9 mois d'opération contre ce groupe. Alors, c'est vrai, il y a eu des dégâts humanitaires, on le regrette beaucoup, on essaie de mitiger. Mais les opérations contre les FDLR, que ce soit des efforts multifacettes, comme Annick demande, ou que ce soit des autres mesures, ça va prendre du temps. Et je crois que c'est très important d'avoir, et c'est très important à comprendre. Pour ce qui concerne cette approche multifacette, je peux mentionner au moins 2 choses. D'abord, c'est que le Conseil de sécurité lui-même a demandé aux pays et de la région et partout dans le monde de cesser leur coopération ou bien ou de mettre de la pression sur les membres des FDLR qui sont hors de la région et qui soutiennent le groupe armé qui opère dans le Congo. Alors, on a exploré plusieurs pistes. Et en effet, de mettre de la pression et sur le blanchiment de l'argent, par exemple, sur les trafics des personnes, sur les autres moyens qu'utilisent ces gens à l'extérieur de la région pour soutenir financièrement et autrement les FDLR. C'est ça une piste qui doit être explorée. Et au niveau de New York, c'est une des raisons pour laquelle Alan Doss, qui est chef de la mission de la MONUC, va briefer le Conseil de sécurité cette semaine sur les autres mesures qui peuvent être prises au niveau international de mettre de la pression. Alors, pour ce qui concerne d'autres mesures sur le terrain, nous avons des équipes DD3R, c'est-à-dire des gens qui s'occupent à persuader les membres des FDLR de se rendre et de se rapatrier. Il y a eu quand même des progrès là-dessus. Il y a à peu près 1200 qui se sont rendus, qui ont désarmé, qui sont rentrés chez eux, ainsi que quelques 13 000 dépendants et autres civils rwandais qui ont été associés aux FDLR. Alors c'est une approche avec la pression militaire qui essaie de diminuer la force et d'affaiblir les FDLR.
Mais il y a toujours, hein, Kevin Kennedy, ces 3000 casques bleus qu'on continue à attendre, il y a à peine une centaine qui sont arrivés. Qu'est-ce qui bloque cette machine?
Bon, c'est pas une question de blocage, c'est une question de la disponibilité des troupes et de si vous voulez, la volonté des pays qui ont des équipements, qui ont des hommes à offrir, à les offrir. Les Nations Unies n'a pas d'armée, alors il faut dépendre des pays qui sont prêts à contribuer des troupes. Pour revenir sur un autre point qu'Annick a évoqué, c'est que la Monique exige que le gouvernement s'assure que les FRDC ne commettent pas des abus. Alors, en fait, la Monique a fait à plusieurs reprises, a apporté à l'attention du gouvernement le fait qu'il faut améliorer le comportement et la discipline des FRDC, mais rappelons que les FRDC est une armée qui manque beaucoup de moyens. Et je dirais qu'une autre mesure qui peut être prise au niveau international, c'est d'appuyer les efforts et de la MONUC et du gouvernement congolais à renforcer la justice militaire, à fournir les équipements et les capacités nécessaires pour finalement pour mettre ces gens devant, pour traduire ces gens devant la justice militaire.
Honorable Aubin Minako, nous sommes au niveau des recommandations. Que faut-il pour garantir de façon durable et réelle, hein, la sécurité de toutes ces populations dans ces opérations militaires?
Je voudrais d'abord remercier la MONUC parce que là, je viens d'avoir des informations plus précises, hein, parce que je ne suis pas ces dossiers quotidiennement, j'ai d'autres tâches. Et donc, c'est toujours bon d'être éclairé. Je suis sûr que c'est aussi le cas pour notre amie, Madame Aneke. D'abord, pour améliorer la situation sur le terrain, je crois qu'il faut s'accrocher aux principes et savoir quelles sont les causes de la situation actuelle. Les causes, c'est que au départ, la souveraineté du Congo est violentée. Le Congo reçoit plus d'un million de réfugiés rwandais avec des militaires. Des massacres sont perpétrés à RDC, et puis c'est le cycle des violences au Congo pendant plus de 10 ans. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale est responsable en partie de ce qui arrive au Congo. Nous aussi, nous-mêmes Congolais d'abord, ça c'est clair, mais aussi la communauté internationale. Et donc pour que les choses s'améliore, il faudrait que la communauté internationale puisse disposer de plus de moyens afin de pallier aux insuffisances éventuelles du Congo, qui est un membre à part entière des Nations Unies. Et cette communauté internationale se résume au Congo, entre guillemets, par la MONUC. Donc il faut, je crois que le mandat de la MONUC est assez clair sur le terrain. Il faut renforcer la MONUC, les 3000 hommes, les moyens militaires, les moyens matériels militaires adéquats. Et en même temps, ça c'est vraiment un point de vue personnel, il faudrait aussi améliorer la gouvernance, la démocratie au sein des États voisins qui ont un certain lien étroit avec le conflit en République démocratique du Congo. Et il y a aussi une autre condition, c'est finaliser le processus de la réconciliation nationale au Congo. Et je crois que là, nous avons suffisamment évolué avec les dernières élections. Et s'il y a encore quelques problèmes ci et là, il faut réellement mettre un terme à ces problèmes. Pour le reste, c'est la tâche de l'armée congolaise, c'est la tâche des populations congolaises, particulièrement celles de l'Est, mais nous avons encore suffisamment besoin d'un soutien de la communauté internationale par les biais de la MONUC.
Voilà, la réalisation me signale que nous avons tenté en vain d'avoir Cyprien Biringingwa, président de la société civile du Sud Kivu, que nous avons annoncé dans cette émission. Aneke, vous venez de suivre Kevin Kennedy qui a parlé des dispositions qui sont prises au niveau de la MONUC pour garantir la sécurité des populations. Aubin Minako a ajouté d'autres éléments. Êtes-vous satisfaite?
Je pense que moi-même, je n'ai pas toutes les solutions de ce problème et je pense que c'est toujours très important qu'on continue les débats sur ce sujet-là. Mais moi, je sais seulement qu'une chose qui est toujours claire, c'est que si on continue avec une culture d'impunité pour les membres des FPLR ou pour les membres du FARDC, moi, je suis vraiment très pessimiste si on peut trouver une paix durable à l'est du Congo. Donc, je pense que quand ça continue, qu'on a des auteurs de ces crimes toujours dans le rang du FARDC, toujours supporté par les casques bleus de la Nations Unies, moi j'ai peur qu'on ne va jamais trouver une solution pour mieux protéger les civils et pour vraiment trouver une paix durable. Donc je pense que ça vraiment doit être une des premières conditions pour ces opérations, pour assurer une meilleure protection des civils, c'est de traduire en justice les responsables pour tous ces viols, pillages, etc. Vous connaissez, je parle toujours avec beaucoup de gens quand nous faisons nos recherches sur terrain. Et en fait, on avait fait plusieurs de semaines et j'étais vraiment très touchée par les cas de filles et des femmes qui ont dit qu'ils ont pensé que leur gouvernement, leur armée vient pour les protéger. Mais en fait, c'est eux-mêmes maintenant qui sont des victimes de viols des membres du FARDC. Je ne veux pas dire que toutes les FARDC sont en train de violer. Ce n'est pas le cas. Mais je pense que quand la Nations Unies est là pour supporter une armée où il y a quelques-uns qui continuent ce type de dégâts, ce type de violations, je pense qu'on doit poser des grandes questions. C'est quoi l'objectif de ces opérations et c'est quoi l'objectif du support de la MONUC de cette armée? On doit vraiment faire tout pour améliorer la protection des civils.
Honorable Obeminako, oui, mais l'objectif de cette opération est clair. Toute personne qui peut avoir le moindre doute sur cet objectif nous laisse croire que la personne a une motivation, nourrit une motivation anormale. L'objectif est clair, c'est mettre hors d'état de nuire les FDLR, parmi qui se retrouvent éventuellement certains génocidaires. C'est clair, et laisser la paix aux Congolais du Nord Kivu, du Sud Kivu et d'autres provinces de l'Est. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord. En tout cas, personnellement, je milite pour que tous les militaires FARDC, surtout ceux qui violent, soient condamnés le plus rapidement possible. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord que la paix et la justice doivent évoluer concomitamment. Mais la paix face à la justice ne signifie pas la paix face à un cas individuel de justice. Donc si Bosco Ntaganda n'a pas été arrêté et transféré et remis à la Cour pénale internationale, ça ne signifie pas que le Congo est contre la justice internationale. D'ailleurs, s'il y a aujourd'hui un État qui a coopéré suffisamment avec la Cour pénale internationale, c'est le Congo. Paix et justice, oui. Mais paix, lorsque un seul individu n'a pas été transféré, ça ne signifie pas qu'on est contre la justice.
Honorable, pouvez-vous déjà conclure, parce qu'il nous reste une minute pour terminer l'émission.
Oui, merci beaucoup. Je suis enchanté de cette émission. Je conclue en disant que le Congo est un État de droit, respectueux des règles essentielles du droit international humanitaire. Nous devons tous mettre en œuvre ce droit international humanitaire qui soit réellement respecté. Nous, gouvernement congolais, avec l'aide de la MONUC, je crois que c'est un travail qui est déjà en train d'être fait, c'est un travail qui doit prendre du temps. Mais l'essentiel de tout, c'est la souveraineté du Congo, c'est la paix pour les enfants du Congo.
Kevin Kennedy, votre conclusion également.
Bon, je crois que nous sommes tous d'accord qu'en fait, la plus grande menace, c'est les FDLR, et il faut en trouver une solution. Et on est en train de la faire, et enfin d'essayer de minimiser les dégâts. Et je voudrais revenir très vite sur un point qu'a fait Annika. Nous sommes entièrement d'accord que l'impunité, une culture de l'impunité ne sert pas au Congo, ne sert pas à l'avenir. Alors la réforme de l'armée congolaise est un grand défi pour ce pays et évidemment, éventuellement, un filtrage de ceux qui sont admis à l'armée comme soldats d'une armée républicaine doivent répondre aux plus grands standards et qui doivent respecter les droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme.
Annika, un mot aussi en guise de conclusion.
Alors, je suis très contente que l'honorable a dit que le Congo a un état de droit. Je voudrais bien aussi la même chose, et dans ce cas, j'attends l'arrestation de général Bosco Ntaganda et plusieurs d'autres responsables pour des violations des droits de l'homme assez graves à l'est du Congo. Avec ce type d'arrestation, avec vraiment des efforts pour mettre fin à la culture d'impunité, peut-être on peut espérer pour une meilleure protection des civils et pour une meilleure monde à l'est du Congo.
Voilà, merci à vous, Annette Van Woudenberg, chercheuse à Human Rights Watch, chargée du programme RDC. Merci à Kevin Kennedy, directeur de l'information publique de la MONUC. Merci à Aubin Minakou, député national PPRD et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. C'est dommage que nous n'ayons pas eu Cyprien Biringingwa dans cette émission. Merci à vous, très chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Radio Capi.